Il est 7h sur Europe 1.
Je dois attendre jusqu'à août pour avoir la deuxième dose. Ça fait d'ici août, je peux rien faire du tout. Ni piscine pour les enfants, ni zoo, ni parc d'attraction. On va faire quoi maintenant ?
Le casse-tête du pass sanitaire qui sera bientôt étendu. Les sénateurs ont voté le projet de loi la nuit dernière avec quelques modifications. Ils vont désormais devoir s'accorder avec les députés.
Une partie de l'Aude toujours en proie aux flammes depuis hier. C'est le premier gros incendie de l'été. Nous serons en direct avec les pompiers dès le début de ce journal.
C'est la première médaille française au JO. Le bronze pour Luca Meredze en judo. Retour dans cette édition sur le parcours totalement hors norme de ce combattant géorgien réfugié politique en France.
Et puis on ira en Bretagne, non pas au bord de la mer mais en pleine campagne. Destination très prisée des touristes en quête de nature.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus de 850 hectares brûlés et plus de 700 pompiers mobilisés.
Oui, l'incendie qui s'est déclenché hier après-midi dans l'Aude fait toujours rage. Toute la nuit, les secours étaient à pied d'œuvre. Bonjour lieutenant Philippe Miramont.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes chef de service prévision au SDIS de l'Aude. Quelle est la situation ce matin ?
Écoutez, au dernier point de 6 heures, hein, le feu donc a été très actif jusqu'à environ 3 heures du matin. En première partie de nuit, nous avons eu une atténuation. Cependant, ce matin, l'avant-flanc gauche du feu sur la commune de Foncouverte reste toujours encore actif à plusieurs endroits. À l'heure où je vous parle, 800 hectares ont été brûlés. Et deux villages ont dû être protégés. Ce sont les villages de Foncouverte et Fabrezan.
Ils sont toujours en danger ce matin, ces villages ?
En danger, non. Non.
On avait évacué des personnes, elles ont pu rentrer chez elles ?
Oui, tout à fait. Donc, au plus actif du feu, 120 personnes avaient été rassemblées au niveau de la salle polyvalente. Et nous avons effectué 20 protections d'habitation sur le village.
Lieutenant, est-ce que vous connaissez les raisons de cet incendie ? Qu'est-ce qui l'a déclenché ?
Mais là, une enquête est toujours en cours par les forces de l'ordre. Nous savons, dès les premiers appels, que le feu était parti en bord d'autoroute, sur l'autoroute A61, juste sur le bas-côté.
Donc la piste privilégiée, j'imagine, c'est un jet de mégot par la fenêtre ?
Une de ces pistes, effectivement, sont explorées à l'heure actuelle par les services de l'ordre. Après, une enquête définira justement si c'est le cas ou pas.
On peut peut-être rappeler justement ce matin les règles de prudence dans le sud, avec la sécheresse notamment ?
Oui, tout à fait. Donc, en termes de règles de prudence, c'est d'une part un message à tous les automobilistes, d'une part d'éviter de jeter les mégots par les fenêtres, ça c'est la première chose. Et puis dans tous les massifs forestiers que nous avons dans la zone sud, tout ce qui est barbecue, grillade ou autre sont à exclure dans tous ces massifs, puisque bon, nous sommes à une période assez sèche à cette période de l'année, et depuis quelque temps nous avons malheureusement pas eu de fortes pluies significatives.
Merci beaucoup, lieutenant Philippe Miramont du SDIS de l'Aude, qui vous étiez en direct avec nous sur Europe 1.
Dans le nord du pays, ce n'est pas la chaleur qui pose problème. Bien au contraire, les fortes pluies compliquent sérieusement les moissons dans l'Avesnois. Les champs sont gorgés d'eau, les céréales sont littéralement couchées sous le poids des gouttes. Ce qui rend les récoltes plus longues et plus difficiles, c'est ce qu'explique Jean-Christophe Ruffin, agriculteur à Mérieux, vice-président de la FDSEA du Nord.
L'eau, elle est dans les sols et en fait, aujourd'hui, on a quand même des grosses difficultés pour accéder au terrain. Dans les endroits qui sont humides, les moissonneuses batteuses ont tendance à s'enliser, quoi. Le long des routes, on voit des céréales qui sont couchées et c'est beaucoup plus difficile pour les récolter, quoi, parce qu'en fait, on va dire qu'il faut au minimum deux fois plus longtemps pour ramasser des récoltes qui sont couchées plutôt que des récoltes qui sont bien debout, parce que les machines ont beaucoup plus de mal à l'attraper. Et en plus, la qualité est impactée parce que quand une céréale est debout, elle est en plein vent, elle sèche facilement. Les céréales qui sont posées dans la boue, elles ne sèchent pas, quoi. Donc la qualité est fortement impactée aussi, ouais. On a perdu, par rapport aux objectifs de rendement qu'on avait cette année-ci, entre 10 et 30%. Quoi.
Jean-Christophe Ruffin, le vice-président du principal syndicat agricole dans le Nord, la FDSEA, au micro européen de Maximilien Carlier.
Le Sénat a adopté le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Cette nuit, 199 voix contre, 123.
Et il a tout de même apporté des modifications au projet de loi du gouvernement. Les centres commerciaux seront exemptés de passes comme les terrasses des restaurants, par exemple. Les mineurs de plus de 16 ans pourraient se faire vacciner sans autorisation parentale. Les sénateurs et les députés ont désormais rendez-vous à 15h en commission mixte paritaire pour pour tenter de s'accorder sur un texte de compromis et éviter une nouvelle navette parlementaire. En attendant, dans la rue hier, le ministère de l'Intérieur a recensé quelques 160 000 manifestants anti-pass sanitaire dans toute la France.
Et ce fameux pass sanitaire, il est déjà en vigueur, vous le savez, pour entrer dans les lieux de culture et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes, mais ce n'est pas encore un réflexe, Fanny.
Non, c'est vrai, on a tendance à l'oublier dans certains espaces, comme au zoo, exemple à Lille avec Maximilien Carlier.
Devant l'entrée du parc, Patrice et Michel, les yeux rivés sur leur téléphone, impossible de trouver le fameux Graal.
Je cherche mon pass sanitaire que je n'ai pas, que je n'ai pas chargé sur mon téléphone. Voilà.
On emmène les petits-enfants au zoo et on ne peut pas rentrer.
3,5 km à pied pour rien. Pourtant, ils sont vaccinés, 2 doses et 7 jours de protection. À quelques mètres de là, Akermi doit également faire demi-tour, plutôt énervé.
Moi, j'ai le vaccin, j'ai la première dose, mais je ne peux pas rentrer. Ça fait que je dois attendre jusqu'à août pour avoir la deuxième dose. Ça fait d'ici août, je peux rien faire du tout. Ni piscine pour les enfants, ni zoo, ni parc d'attraction. On va faire quoi maintenant?
La solution, c'est le test antigénique. Certains d'ailleurs vont en faire un en pharmacie avant d'entrer. D'autres trichent. Clairement, c'est ce que m'a expliqué un des agents de sécurité.
Vous savez, il y a des applications des réseaux sociaux. Vous partez, vous payez 200 euros, ils vous donnent un faux QR code. Avec ce faux QR code, vous le scannez et tout le monde peut avoir l'application pour vérifier si le QR code est valable. Ils prennent une pièce d'identité, la modifient, ils mettent le nom et prénom là où il y a le QR code. Ça passe.
Et ça passe. Ce vigile ne peut rien faire car pas habilité selon lui, même s'il voit clairement que la pièce d'identité a été retouchée. Alors bon, c'est un phénomène encore assez marginal qu'il a constaté 4 fois ici au zoo. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
On ne triche pas, en revanche, à Tokyo. C'est à la loyale que la France a obtenu hier sa première médaille, le bronze en judo.
Victoire de Luca Merezze, la récompense d'un travail acharné et d'un parcours extraordinaire, Simon Rubin.
Luca Merezze, c'est l'histoire d'un gamin géorgien qui monte sur les tatamis très jeune, vers l'âge de 5 ans. La Géorgie, pays de judo et de lutte. Là-bas, l'apprentissage se fait à marche forcée. On progresse vite et on s'entraîne tout petit, déjà comme des professionnels. Mais très rapidement, sa passion et toute sa vie sont balayées par la guerre qui éclate. 2008, deuxième guerre d'Ossétie du Sud. Luca Merezze doit alors quitter son pays. Après quelques mois en Pologne, il arrive en France en tant que réfugié politique. Il s'établit en Normandie avec sa famille, retrouve la pratique du judo. Il est naturalisé français en 2015. Et forcément, pendant son combat pour la médaille de bronze, il a eu cette pensée pour sa Géorgie natale, ses parents et cette vie qu'il a laissée aux confins de l'Europe.
Ce qui me donnait à chaque fois envie de me battre, continuer, pas lâcher, c'est aussi mon parcours, la famille que j'ai dû laisser en Géorgie. C'est aussi pour eux que je me bats et pour moi aussi, bien sûr.
Et puis Luca Merezze, c'est aussi un sportif Covid qui n'aurait sans doute pas été qualifié pour les Jeux en 2020 et qui a bénéficié du report d'un an. Ce n'est qu'avec son titre de vice-champion d'Europe en avril dernier qu'il a obtenu sa qualification pour Tokyo.
Simon Rubin.
Et à 7h20, ne manquez pas le journal des Jeux. On fera le tour des médailles avec Julien Froment. Loin des tatamis maintenant et des hippons, prenons le temps de profiter de nos vacances à la campagne.
En plein cœur de la Bretagne, destination choisie par 10% des Français. Le reportage d'Élise Dangean à Quiberon dans le Morbihan.
Office de tourisme de Pontivy, communauté Julie, bonjour.
C'est un signe qui ne trompe pas, le téléphone sonne beaucoup et la péniche qui sert d'office du tourisme ne désemplit pas. Mathieu est venu y réserver une activité pour toute la famille et il y a de quoi faire. Ici, on trouve par exemple le plus grand lac de Bretagne et 2 de ses plus belles forêts.
La nature, l'omniprésence de la nature, ça permet vraiment de bien déconnecter de la région parisienne.
Sébastien aussi a préféré cette année des vacances au vert plutôt qu'à la mer et ce sera sportif. 6 jours de vélo avec son fils le long du canal de Nantes à Brest.
C'est un rêve que j'ai depuis longtemps, faire un trip comme ça en vélo. Et on m'a plus conseillé cette partie-là, de Pontivy, enfin Guerre-les-Dents en fait.
Résultat, les réservations explosent dans la région, explique Gwenola de Arrojo, directrice de l'Office du tourisme de Pontivy et propriétaire d'un gîte.
Là aujourd'hui, nous sommes remplis jusqu'à fin septembre, ce qui est assez incohérent par rapport aux autres années, mais je veux dire plutôt bien pour nous. Donc ça prouve bien que les visiteurs recherchent vraiment des destinations à la campagne.
La campagne, mais jamais très loin de la mer. À Pontivy, on est à environ 1 heure de la côte, mais avec des hébergements qui coûte environ 20% moins cher.
Un reportage signé Élise Dangean.
Les vacances à la campagne, c'est bien, mais avec un bon livre dans ses valises, c'est encore mieux.
Oui, c'est sûr. Et c'est surtout en septembre qu'on aura le choix. 521 nouveaux ouvrages feront leur rentrée littéraire cette année, Nicolas Carreau.
Attention scoop, Amélie Nothomb publiera un nouveau roman à la rentrée, comme chaque année depuis presque 30 ans. Son nouvel opus s'appelle Premier sang. On compte 379 romans français cette année et 142 romans étrangers. Autre retour très attendu, Philippe Jaénada par exemple, l'auteur de La Serpe en 2017, revient avec Au printemps des monstres chez Mialet Barreau et s'intéresse cette fois-ci à un fait divers des années 60, addictif. David Diop, l'auteur de Frères d'âme en 2018 et lauréat du Man Booker Prize signe La porte du voyage sans retour au seuil. Céline Minard aussi, l'auteur de Faillir être flingué, sera sans doute dans les sélections des Grands Prix avec Plasma chez Rivage, un livre complètement fou et virtuose, on en reparlera. Et puis Christine Angot ou Patrick Modiano sont également sur les rangs. Côté étranger, une surprise, Quentin Tarantino lui-même, il publiera l'adaptation en livre de son dernier film, Il était une fois à Hollywood. On sera aussi très attentif au premier roman, ils sont 75 primo-romanciers, 10 de plus que l'année dernière.
Nicolas Carreau.
Qu'on retrouvera dans une quinzaine de minutes pour son conseil lecture. C'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny. Restez